Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Après Benoît XVI, l'intellectuel timide et réservé, le nouveau pape, venu du bout du monde, a inauguré un nouveau style d'expression, bousculant les habitudes romaines et séduisant les médias et l'opinion publique par sa simplicité naturelle et spontanée et par ses gestes de proximité. Devant les journalistes, samedi matin, il a suscité l'étonnement en racontant le choix de son patronyme pendant le conclave et en ponctuant son discours d'improvisation et de quelques phrases fortes. Écoutez.
Ah, comme je voudrais une église pauvre et pour les pauvres. L'église est certainement aussi une institution humaine, historique, avec tout ce que cela comporte, mais sa nature n'est pas politique, elle est essentiellement spirituelle.
Plus de 6000 journalistes avaient rempli ce samedi matin la salle Paul VI, un lieu habituellement réservé aux audiences générales hebdomadaires du pape. Ils étaient venus faire connaissance avec le nouvel évêque de Rome au terme de plusieurs journées de travail intense depuis l'annonce surprenante du 11 février. Certains étaient accompagnés des membres de leur famille. Anthony Torzac.
Plusieurs fois interrompu par des applaudissements nourris, le pape a une nouvelle fois créé la surprise. Devant les journalistes, il a expliqué pourquoi, en plein conclave, dans le secret de la chapelle Sixtine, il avait choisi de s'appeler François, en référence à saint François d'Assise, le saint patron des pauvres, de la paix et de la sauvegarde de la création. Durant l'élection, j'étais à côté de l'archevêque de Sao Paulo, Claudio Hummes, un grand ami. Quand les choses sont devenues dangereuses, il m'a réconforté et quand les votes ont atteint les deux tiers, il m'a serré dans ses bras et m'a dit « N'oublie pas les pauvres ». Et pendant que le dépouillement se poursuivait, l'idée a fait son chemin dans les pensées de l'élu. Le nouveau pape a raconté avec humour que certains cardinaux lui avaient suggéré de choisir plutôt le prénom Adrien, parce que Adrien VI a été un réformateur et qu'il faut réformer, ou Clément XV pour se venger de Clément XIV qui a supprimé la Compagnie de Jésus. Les événements de l'Église, a-t-il dit, ne sont pas plus compliqués que les événements politiques ou économiques, mais ils répondent à une logique qui n'est pas principalement celle des catégories du monde. C'est pourquoi il n'est pas facile de les interpréter, de les communiquer à un public vaste et varié. Le nouvel évêque de Rome a invité les catholiques à garder à l'esprit que c'est Jésus qui est au centre de l'Église et non le souverain pontife. Quant aux journalistes, il leur a demandé de se concentrer sur la vérité, la bonté et la beauté.
Et l'agenda du nouveau pape se remplit. On connaît déjà son programme jusqu'au 24 mars. Le voici en détail. Ce dimanche à 10h, il célébrera la messe en l'église paroissiale Sainte-Anne au Vatican. Puis à midi, il présidera le traditionnel Angélus depuis la célèbre fenêtre de l'appartement pontifical. Lundi, il recevra la présidente argentine Cristina Kirchner à la maison Sainte-Marthe. C'est le mardi 19 mars, solennité de Saint-Joseph, que débutera officiellement son ministère pétrinien au cours d'une célébration eucharistique à partir de 9h30 sur la place Saint-Pierre, en présence de nombreuses têtes couronnées, chefs d'État et de gouvernement. 1 million de personnes sont attendues, selon la préfecture de Rome. Et après la messe, le pape saluera les chefs des délégations officielles. Le mercredi 20 mars, il recevra en audience les représentants des autres confessions chrétiennes, dont le patriarche de Constantinople, Bartholoméos Ier. Le vendredi 22 mars, dans la salle royale, il s'adressera au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. Samedi, il se rendra en hélicoptère à Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes près de Rome, où Benoît XVI réside depuis sa renonciation le 28 février. Un déjeuner est prévu avec son prédécesseur. Il lui avait déjà téléphoné le soir même de son élection. Et vendredi, à l'occasion d'une rencontre avec les cardinaux, il a rappelé la bonté et la douceur de son prédécesseur, dont il a salué la démission en parlant d'un geste courageux et humble. Enfin, le 24 mars, dimanche des Rameaux, le pape François célébrera la messe à partir de 9h30 sur la place Saint-Pierre. La célébration sera suivie de l'Angélus de midi. Dans l'immédiat, les chefs, les secrétaires et les membres des dicastères de la curie romaine conservent provisoirement leurs charges respectives jusqu'à ce qu'ils soient pourvus autrement. Cela vaut également pour le président de la commission pontificale de l'État de la Cité du Vatican. C'est la volonté du pape François qui veut prendre un temps de réflexion, de prière et de dialogue avant toute nomination ou confirmation définitive. Parmi les personnalités religieuses qui seront présentes pour la messe d'inauguration du pontificat mardi prochain figure Mgr Foitoile, le patriarche latin de Jérusalem. L'Église catholique de Terre Sainte a félicité de tout cœur le pape François et s'est réjouie de son élection au trône de Pierre. Dans un message adressé au nouveau souverain pontife, elle exprime sa profonde communion avec le pape et le remercie par avance de la sollicitude pastorale qu'il manifestera aux communautés chrétiennes de Terre Sainte. On écoute sa béatitude, Mgr Foitoile.
Nous sommes heureux de voir qu'aucun conclave des journalistes n'a pu prévoir ce choix. Ça veut dire que le Saint-Esprit a travaillé. Nous sommes très heureux de ce choix. Et un pape de pauvre, pape de simplicité, il n'est pas compliqué. J'étais heureux de le voir il y a 2 ans en novembre, en passant par l'Argentine et l'Amérique latine. Et il est, pour nous, il est au courant un peu de notre situation, indirectement à cause des tentes d'émigrés chrétiens du Moyen-Orient, soit de Palestine, soit du Liban, qui sont dans son diocèse. Et de là, il avait déjà une idée pourquoi ils ont quitté.
Les papes précédents, que ce soit Paul VI, Jean-Paul II ou Benoît XVI, sont tous venus en Terre Sainte à la rencontre des communautés chrétiennes, des communautés juives, musulmanes. Ils ont posé des gestes forts, symboliques. Qu'est-ce que vous attendez-vous comme geste concret et fort de la part du pape François?
Nous-mêmes, nous savons par expérience qu'en ce qui regarde la Terre Sainte et la situation au Moyen-Orient, il y a déjà une ligne claire et nette du Saint-Siège que tous les papes suivent et vont suivre. Et je suis sûr qu'il ne sortira pas de cette ligne pour ce qui est de l'État palestinien, pour ce qui est de l'occupation, pour ce qui est de la paix au Moyen-Orient. Je suis sûr qu'il aime la Terre Sainte, qu'il aimera la Terre Sainte. Et sinon, on le fera aimer avec notre témoignage, avec nos prières et notre adhésion à lui sans condition. Du premier coup, ça nous donne l'impression d'être un pape moins pour le protocole, plus pour les pauvres, pour une vie simple et d'humilité, de prière, et c'est dont nous avons tellement besoin.
Le patriarche latin de Jérusalem, interrogé par Manuela Affigi. L'Église catholique est donc en fait, elle se réjouit de l'élection d'un nouveau pape, mais elle ne peut pas pour autant oublier les situations de détresse dans le monde et en particulier la crise syrienne. Le conflit en Syrie a fêté vendredi un triste anniversaire. Cela fait en effet 2 ans que les premiers soulèvements contre le régime de Bachar al-Assad ont eu lieu. Depuis, le pays s'est enfoncé dans une violence sans fin qui a fait au moins 70 000 morts selon l'ONU et plus d'un million de réfugiés. La communauté internationale est impuissante face à cette violence meurtrière et est toujours empêtrée dans ses divisions entre soutien direct ou indirect à la rébellion, opportunité ou non de livrer des armes au risque d'internationaliser le conflit. Pourtant, la solution pacifique existe si les hommes de bonne volonté arrivent à se faire entendre. C'est le souhait du nonce apostolique à Damas, Mgr Mario Zenari.
Ici a déjà commencé la belle saison. Il y a des belles journées. C'est le printemps, mais malheureusement, c'est pas du tout le printemps. L'atmosphère est toujours très, très lourde, spécialement en ces jours, on écoute les retentissements des canons, de l'artillerie, etc. Et quand je pense que dans le monde entier, les chrétiens vont bientôt entrer dans la semaine liturgique de la Passion de Jésus, alors là, je dois dire que ici, les gens sont rentrés, on peut dire aujourd'hui, ils sont rentrés dans la 3e année. Pas la 3e semaine, la 3e année de passion. Vraiment, c'est triste. Je viens d'envoyer, comme tous les noms apostoliques, comme beaucoup de monde, les félicitations joyeuses au Saint-Père, au Pape François. Mais je dis aussi avec beaucoup de peine, faire un mot, dire un mot aussi, qu'il prie pour ces gens de Syrie, pour ces gens qui souffrent terriblement de ces conflits. En même temps, je me rends compte qu'avec beaucoup, beaucoup de peine, que peut-être je serai parmi les premiers qui vont un peu ruiner, si je peux le dire, la belle atmosphère de ces premiers jours, de son pontificat. Quand je dois lui faire parvenir sur son bureau des dossiers plutôt lourds, des dossiers de souffrance de ces gens, beaucoup de ces gens de Syrie, et dossiers qui, je me rends compte, je suis très sûr, ne resteront pas seulement sous saisiers, mais dossiers de souffrance qui rentreront tout de suite dans son cœur.
Monseigneur Zenari, est-ce qu'il y a une solution politique, selon vous, pour en finir avec cette guerre, malgré tous les blocages, on le voit, une solution pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette spirale de la guerre?
On va prier afin que les bonnes volontés, de tous côtés puissent avoir la victoire, ecco, la victoire de la réconciliation, la victoire de la paix. C'est un chemin encore très, très difficile, mais j'ai perçu que les gens sont fatigués de cette guerre. Personne ne veut continuer ce conflit.
Le nonce apostolique à Damas, interrogé par Olivier Bonnel. Et le livre Pour Dieu qui nous est proposé cette semaine par Catherine Aubin est un ouvrage qui brosse les portraits d'une dizaine de papes qui se sont succédés de la Révolution à nos jours, de Pie VII à Benoît XVI. Ces papes qui ont fait l'histoire, écrit par le journaliste français Henri Tinck, que nous allons écouter.
À la Révolution française, la papauté de Rome est comme presque morte. La mort de Jean-Paul II, les obsèques de Jean-Paul II, l'élection de Benoît XVI avaient amené des foules considérables à Rome. Ça avait été un événement qui manifestait une église de nouveau en pleine forme et quasiment triomphante. Donc c'est tout ce parcours historique que je souhaite traverser, d'une papauté qui était quasi morte avec les idées révolutionnaires qui traversaient toute l'Europe. Ce parcours historique que je voulais faire, d'une papauté affaiblie à une papauté triomphante.
Justement, dans votre livre, il me semble que vous essayez de nous dire, à travers cette galerie de papes, quelle adaptation de l'Église et de sa hiérarchie au monde moderne. Comment l'Église s'est-elle adaptée depuis 250 ans ?
Bien, j'ai surtout examiné le rapport à la modernité. Au XIXe siècle, il y a des idées nouvelles. Le libéralisme, la démocratie, les États-nations, les idéaux de liberté, d'égalité, d'émancipation, la montée de la science, de la raison, et toutes ces idées qui sont apparues au XIXe siècle, idées neuves, les papes ont dû s'affronter à ces nouvelles idées. Alors qu'il y avait le sentiment que Dieu disparaissait à travers ces idées nouvelles, la papauté voulait maintenir ce qu'elle appelait les droits de Dieu par rapport à cette pression, cette poussée en faveur des droits de l'homme. Ce rapport à la modernité est l'angle que j'ai choisi pour ce livre et il se renouvelle au XXe siècle lorsque, devant les idées nouvelles aussi, la papauté décide d'ouvrir un concile, c'est Vatican II, et Vatican II se réconcilie l'Église avec les idées nouvelles, avec le monde moderne, mais elle a une autre conception de l'homme et une autre conception de la modernité.
Quel est, parmi tous les portraits que vous nous avez donnés dans ce livre, quel est le portrait de pape, quelle est la personnalité du pape que vous préférez?
J'ai bien connu Jean-Paul II et j'ai suivi beaucoup, beaucoup de ses voyages. Mais j'ai une petite préférence pour le pape Paul VI. Jean-Paul II fut un pape de grands gestes et Paul VI, lui, à mon avis, fut un pape de gestes et de réformes. Il a repris en main une église ébranlée, pleine de doutes et d'hésitations après Vatican II. Il a remanié son mode de gouvernement jusqu'à la curie. Il a restauré le synode des évêques. Il a mis en œuvre de nouvelles formes de collégialité entre le centre du catholicisme et les églises locales. Ce fut, à mon avis, le plus grand pape du XXe siècle.
Ce livre, « Ces papes qui ont fait l'histoire » date déjà de 2005-2006. Avez-vous déjà commencé votre livre sur un autre pape qui a fait l'histoire, Benoît XVI ?
Non, je n'ai pas commencé mon livre sur Benoît XVI. Il y aurait beaucoup à dire sur ce pape que j'ai aussi beaucoup aimé. Ça a été un pape intellectuel qui a remuer en profondeur chaque catholique aujourd'hui, qui les a ramenés à la question fondamentale. La question fondamentale est celle de la foi. L'histoire rendra justice à ce pape d'avoir été un grand pape.
Livre pour Dieu, une rubrique hebdomadaire réalisée par sœur Catherine Bain. Et c'est l'heure de retrouver, comme chaque semaine, le père Pascal Montavis pour le commentaire de l'évangile du 17 mars, cinquième dimanche de Carême. C'est l'évangile selon saint Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. »
En ce cinquième dimanche de Carême, l'Évangile nous parle d'un groupe de scribes et de pharisiens qui amènent à Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Par ce récit, Jésus nous révèle à la fois le péché de l'homme et la miséricorde de Dieu. Il libère du mal aussi bien le groupe des pharisiens que la femme adultère. Les pharisiens arrivent ensemble. Ils mettent en avant la femme pécheresse et la condamnent d'une même voix. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. La réponse de Jésus est sans appel. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Ils s'en vont donc, l'un après l'autre, à commencer par les plus vieux. Jésus enseigne aux pharisiens qu'il est facile de s'associer aux autres pour condamner. L'homme se laisse entraîner et se cache derrière un groupe qui lui donne une certaine sécurité. Jésus leur apprend que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est le comportement personnel de chacun. Que celui qui condamne le fasse en son propre nom. Et s'il le fait, qu'il prenne garde d'être lui-même irréprochable. Jésus nous invite donc à ne pas nous laisser emporter par la pensée dominante de nos sociétés. Nous avons chacun une conscience et nous sommes appelés à agir en fonction de celle-ci devant Dieu. Jésus désolidarise le groupe accusateur pour conduire chaque individu, personnellement, à reconnaître son propre péché. La femme adultère, elle, ne dit rien. Jésus commence par lui montrer qu'il a libéré de ses accusateurs. Ces derniers sont tous partis et elle reste seule devant Jésus. Mais Jésus doit encore libérer la femme adultère d'elle-même, de sa propre faute. Il lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Il lui donne donc une parole de vie en lui indiquant le chemin à parcourir. Il lui fait confiance. Cette parole de miséricorde, qui croit au repentir de l'homme et en sa capacité à se convertir, est une parole de résurrection. La femme adultère la reçoit alors qu'elle n'osait même pas la demander. Mais Dieu la lui donne et lui offre ainsi un retour à la vie. Enfin, comment ne pas parler de Jésus qui se baisse et se met à écrire avec son doigt sur le sol, et ce, par deux fois. Une première fois juste avant de s'adresser aux scribes et aux pharisiens, puis une seconde fois avant de parler à la femme adultère. Bien sûr, nul ne peut dire ce que Jésus a écrit. Cela restera jamais un mystère. Il est cependant possible de définir ce que représente un tel geste. Dans l'évangile de Luc, il est écrit « Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. » Matthieu propose le même verset, mais au lieu de débuter par « Si c'est par le doigt de Dieu », il commence par « Si c'est par l'Esprit Saint ». Le doigt de Jésus est donc ce doigt de Dieu qui représente l'Esprit-Saint capable de chasser les démons. Et c'est bien ce qu'il a fait, aussi bien pour les pharisiens qui s'en vont, un par un, que pour la femme pécheresse. Ce doigt de Dieu fait aussi penser au livre de l'Exode lorsque Moïse reçoit les deux tables de l'Alliance, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Les pharisiens voulaient tendre un piège à Jésus en s'appuyant sur la loi transmise par Moïse. Mais Jésus leur dit que l'auteur de la loi, c'est lui. En ce temps de carême, laissons-nous libérer aussi bien des accusations que nous portons sur les autres que de nos propres manquements à la fidélité de son amour.
Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va, sur Facebook et sur Twitter, ainsi que sur les applications de Radio Vatican pour iPhone et Android. Bon dimanche à tous.